On sera bienvenu dans cette émission. Le député national Aimé Boji Sangara est désigné officiellement comme candidat unique de l'Union Sacrée pour la succession de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite ce mercredi 29 octobre par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir. S'exprimant devant la presse, André Mbata affirme que ses choix est le résultat d'un consensus autour de l'autorité de référence de la plateforme, à savoir le président de la République, Félix Tshisekedi. Par conséquent, indique-t-il, il a été demandé aux députés de la plateforme politique et aux 11 autres qui avaient déposé leur dossier à l'Union Sacrée de soutenir cette candidature de Boji. Pour rappel, 12 députés ont déposé vendredi 24 octobre leur dossier de candidature au secrétariat permanent de l'Union Sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale. Quel est-il faire de cette procédure qui a abouti à la désignation du candidat au perchoir de l'Assemblée nationale? C'est l'objet du débat dès ce soir et nous recevons dans cette émission ici au studio Joseph Kongolo. Il est analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir Joseph Kongolo.
Bonsoir Monsieur Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Jonas Tshombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Bonsoir Jonas Tshombela.
Bonsoir,
lui également en ligne, Jeff Mudimbi, le professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir, monsieur Guy Maté. Bonsoir aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, nous allons donner la parole à Monsieur Aubin Minaku pour faire une mise au point au sujet des propos qui lui ont été attribués dans l'émission Dialogue entre Congolais de mardi 28 octobre consacrée à la suspension des activités du parti politique PPRD. Dans cette émission, Alphonse Tamboué, directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a affirmé que Aubin Minaku avait déclaré dans une interview ceci, je cite, nous sortons de la clandestinité, fini la clandestinité, nous sommes prêts à tout, fini les moments de silence, nous passons des actions clandestines aux actions ouvertes au grand jour, je m'assume, fin de citation. Mais Aubin Minaku a estimé que ces propos ont été sortis de leur contexte, c'est pourquoi il a sollicité un droit de réponse pour faire une mise au point à ce sujet, on va donc l'écouter.
Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion, c'est un droit. Parce que un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte finalement, et ça peut désorienter l'opinion publique. Je dirais simplement que j'ai prononcé ces phrases-là le jour de mon installation comme vice-président du PPRD et du secrétaire permanent Ramazan Ishadari, et j'avais parlé pendant 15 minutes. L'honnêteté intellectuelle devrait nous amener à suivre ce texte de bout en bout. Premièrement, c'était dans quel contexte? C'était dans un contexte tel que le 28 janvier 2025, le siège du PPRD Founa était pillé. Et le jour de notre installation, le camarade Claude Machala venait d'être arrêté. Et pendant toute la semaine, c'était une information virale. On avait annoncé le pillage de tous les sièges du PPRD. Nous nous retrouvons, vice-président nouvellement désigné, j'essaie d'exhorter, d'haranguer mes camarades. Et je leur dis, nous devons être prêts à tout. C'est tout à fait normal dans un parti politique. Prêt à être arrêté, prêt à avoir les sièges pillés, prêt à avoir les activités du PPRD suspendues et même le parti dissous, parce qu'on en parlait déjà en ce temps-là. Voici le contexte, sortir des actions clandestines. Mais il n'y a qu'à suivre l'intervention de Ramazani ce jour-là et mon intervention. Nous parlions des songi-songi entre nous. Au lieu des songi-songi, des commérages, des petites actions dans le bureau, nous avions recommandé aux camarades d'agir publiquement par des conférences, par des actions démocratiques, pour récupérer le pouvoir par la voie démocratique. Et ça a été dit ce jour-là, à la même occasion. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout honnête que de sortir 30 secondes ou 45 secondes d'un discours de 15 minutes pour tenter de faire croire que nous étions dans une approche insurrectionnelle. Voilà, et merci beaucoup, une fois de plus. Le contexte est bien clair, le discours ce jour-là était clair. Être prêt à tout, c'est être prêt au harcèlement administratif et judiciaire. Les semaines qui ont suivi l'ont démontré. Action clandestine, pour nous, c'était les songi-songi, éviter des actions sous table, agir publiquement, parce que en tant que parti d'opposition, nous étions et nous sommes en droit d'agir publiquement, mais comme des démocrates, conformément à la Constitution de la République.
Merci, M. Obeminakou, pour cette mise au point. On revient au sujet de ce soir. Le député national Aimé Boji Sangara est le candidat unique de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. D'après André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique du pouvoir qu'il a annoncé ce mercredi à la presse, ses choix est le fruit d'un consensus autour de l'autorité de référence de cette famille politique, Félix Tshisekedi. Il appelle tous les députés de l'Union sacrée à soutenir cette candidature. Avec ses choix uniques, Aimé Boji, élu de Walungu au sud Kivu, devra donc succéder à Vital Kamerhe, qui a démissionné depuis plus d'un mois. Les rappels des faits avec Grace Amzati, permanent des Radio Kapi au Parlement.
C'est depuis la démission de Vital Kamerhe lundi 22 septembre, soit une semaine après la rentrée parlementaire, que la course pour son remplacement au perchoir de l'Assemblée nationale a commencé. Cette course s'est accentuée lorsque l'ancien ministre de l'Industrie, Aimé Boji, démissionne à son tour du gouvernement le lundi 20 octobre, pour regagner son siège à la chambre basse du Parlement. Il est effectivement réintégré le 21 octobre, soit 24 heures après avoir quitté le gouvernement. C'est en ce moment-là que des ambitions se multiplient au sein de l'Union sacrée, avec des annonces de candidatures par-ci par-là. C'est ainsi que le secrétaire permanent de cette plateforme, André Mbata, invite tous les ambitieux à lui déposer leur dossier de candidature le 24 octobre, pour que l'autorité des références de l'Union sacrée, à savoir Félix Tshisekedi, opère un choix. Chose faite. 12 candidats sont à liste. Le même vendredi, André Mbata annonce que les dossiers ont été transmis à Félix Tshisekedi. Le week-end sera alors marqué par le suspense en attente du candidat sélectionné. Pendant ces temps, des analystes politiques soutiennent que cet exercice était une mascarade, car selon eux, le candidat du chef était déjà connu. Aimé Boji ne pouvait pas quitter le gouvernement au hasard. Il a sûrement eu des garanties, estime-t-il. C'est finalement ce mercredi que le secrétaire permanent de l'Union sacrée donne officiellement le nom du candidat choisi par l'autorité de référence. André Mbata dit également avoir organisé des concertations avec les membres du présidium de la plateforme et les 11 autres prétendants. Aimé Boji Sangara est donc à partir de cet instant le candidat unique de l'Union sacrée pour la succession de Vital Kamerhe.
Merci à vous, Grace Amzati. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Quelle analyse vous faites de cette procédure, n'est-ce pas, qui a abouti à la désignation du député Aimé Boji comme candidat unique pour remplacer Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale?
Bien, merci beaucoup. Je voudrais dire tout de suite que je crois que le choix de Aimé Boji a été méthodique. Ça a été méthodique parce que les ambitions ont été exprimées au sein de la plateforme Union sacrée de l'opposition, qui est le bloc hégémonique au pouvoir aujourd'hui, et que toutes les candidatures, comme vient de le dire tout à l'heure votre permanent au Parlement, avaient été rassemblées auprès de leur structure, et de la structure, c'est-à-dire auprès du chef du chef de l'État, du chef de l'autorité de référence, comme il l'appelle. Et de là, effectivement, le choix a été fait. Je crois que cette procédure, elle est une procédure privée d'une plateforme politique au pouvoir, voyez-vous. Alors, si à l'intérieur, ils se sont entendus et qu'il n'y a pas eu du couac, n'est-ce pas, au choix de leur candidat, qui est censé être le candidat unique de l'Union sacrée, ça veut dire que la procédure a été respectée, voyez-vous, ça a été respecté. Et que à l'intérieur, il y a une certaine discipline, en attendant, bien sûr, qu'on arrive aux élections. On va voir s'il y a des brebis galeuses ou encore des moutons têtus qui vont devoir peut-être se présenter aussi à côté de Aimé Bougie, mais jusqu'à preuve du contraire, la procédure a été respectée. Alors, si les gens pensent que le président de la République ou le chef, l'autorité de référence avait déjà choisi son candidat, d'abord, c'est plus que normal dans une plateforme, c'est plus que normal. Eux-mêmes se réfèrent à cette autorité, c'est tout à fait normal que les choses se passent de cette manière, peut-être, mais malgré l'expression des ambitions des autres membres de l'Union sacrée, au moins la chose a été tranchée, et nous croyons que tant qu'il n'y a pas de secousse à l'intérieur de l'Union sacrée, ça veut dire que l'eau y calme dans le verre, et que si cela aboutissait, n'est-ce pas, au choix de Bougie le jour des élections, je crois qu'ils auront joué leur jeu.
Voilà, et si l'implication de la haute autorité de l'Union sacrée n'a pas été, n'est-ce pas, officielle dans la démarche qui a abouti à la démission de Vital Kamerhe, et d'ailleurs lui-même, le chef d'État, avait affirmé qu'il n'était pas impliqué dans les départs de Vital Kamerhe, alors qu'est-ce qui peut expliquer le fait que pour désigner le remplaçant de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, le chef de l'État s'est impliqué lui-même de manière active et de façon officielle?
Ici, d'abord, le choix d'un candidat ne fait pas partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est une activité parallèle à l'activité officielle et administrative de l'Assemblée générale. Donc, ce sont deux processus différents. Ici, c'est dans une structure privée, n'est-ce pas, une structure privée, là où le chef de l'État a les pleins pouvoirs, mais pas dans la gestion de l'institution Assemblée nationale.
Une structure privée, mais les choix du chef imposent, n'est-ce pas, aux députés nationaux un candidat.
C'est pas aux députés nationaux.
On l'a imposé.
Attention, le président n'a pas imposé un candidat aux députés nationaux, mais il a imposé, si nous pouvons utiliser ton terme, il a imposé un candidat aux membres de l'Union sacrée de la nation. Je crois qu'il y a une différence.
Non, mais parce qu'on sait que c'est ce candidat-là qui sera présenté à la plénière.
Tout à fait. Je crois que j'ai fait la différence pour que tu comprennes que le président parle avec sa plateforme politique et non pas avec l'Assemblée nationale. Voyez-vous, c'est sa plateforme. Du moment que cette plateforme politique est majoritaire au niveau du Parlement, eh bien, c'est le candidat du président de la République, s'il y a de la discipline interne, n'est-ce pas, au niveau de la plateforme, c'est ce candidat qui va être président de la République parce que c'est le candidat de la majorité parlementaire.
Alors, le fait qu'il a désigné une seule personne, est-ce que ça ne va pas poser, ça ne va pas créer des frustrations?
Il y aurait des frustrations si, dans la procédure du choix de ce candidat, le président, le secrétaire permanent de l'Union sacrée n'avait pas réuni tous les candidats. Tous les 11 candidats qui s'étaient annoncés n'avaient pas réuni le noyau dur, n'est-ce pas, de l'Union sacrée. En ce moment-là, on dirait que, bon, peut-être qu'il y a étouffement de certaines ambitions, mais là, les choses se sont passées dans le calme. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu de déclaration contraire au sein de l'Union sacrée. Donc, nous continuons à observer pour voir jusqu'à la fin qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la discipline va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à l'élection de Bauge, ou si pas, c'est qu'on va comprendre tout de suite qu'il y a une certaine loyauté au sein de l'Union sacrée.
Merci. Jonas Kumbela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Vous, à la société civile, comment vous analysez cette procédure de désignation du candidat unique pour le remplacement de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale?
Merci pour la question. Ce qui inquiète dans cette affaire, ce n'est pas la personne de M. Mbouj, mais c'est la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Quand un consensus devient une injonction, la démocratie parlementaire risque de perdre sa substance. Et il y a risque même un déséquilibre entre les objectifs et le législatif. Si le perchoir devient une extension de la présidence, cette désignation de cette manière soulève beaucoup de questions. La démocratie à l'intérieur même de la plateforme Union sacrée, la problématique de la transparence même du processus, l'indépendance même du Parlement risque d'en prendre un coup face à l'exécutif qui déjà place des gens. Et l'indépendance du Parlement certainement prendra le coup. Est-ce que cette désignation résulte vraiment d'un véritable consensus démocratique ou d'un consensus dicté ou d'un alignement politique dicté à partir du sommet de l'État? Quelle est la place du débat démocratique au sein même de la plateforme Union Sacrée, il y a risque même de faire louper à la population, aux parlementaires, les choix contradictoires qui caractérisent la démocratie, parce qu'il s'agit là d'un candidat unique. Même là, dans le cas où ça est testé parce que c'est une affaire privée, mais on n'a pas perçu de débat démocratique, parce qu'il devrait même qu'on puisse percevoir deux visions, trois visions, et de là on mettrait les parlementaires devant un fait accompli pour faire le choix. Donc, quelle est la place du débat, finalement, au sein de l'Union sacrée? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que il y a eu vraiment les autres 11 candidats, ont-ils été consultés réellement? Nous sommes au Congo, nous savons comment ça se passe. Il y en a qui sont frustrés. Mais comme nous sommes dans une famille et qu'il y a un problème de positionnement, ils ne pourront pas peut-être l'exprimer publiquement, mais ça existe. Et nous, nous craignons que le perchoir de l'Assemblée nationale devienne l'extension de la présidence de la République, parce que finalement, l'indépendance du Parlement risque de prendre le coup au-delà de ce que nous pouvons penser que c'est une affaire privée, qu'ils peuvent faire les choses. Mais en ce moment-là, nous aurons un Parlement où l'indépendance va devenir désormais un sujet à conscience. Parce que voilà autant d'inquiétudes que nous soulevons autour de cette désignation que nous avons toutes vécues faites de cette manière-là. Nous allons louper. Est-ce qu'on parlera de l'élection ou de plébiscite ou de la désignation? Je crois qu'ils doivent corriger les termes désormais. C'est un plébiscite. C'est un plébiscite. Même si les autres composantes de la plateforme privée du chef de l'État vont consentir, mais la réalité qu'on nous a privée d'un débat démocratique au sein de l'Union sacrée, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on peut parler de la transparence démocratique dans la désignation d'une autre type personnalité d'une telle institution? Voilà. Nous sommes inquiets sur le processus et de la manière dont il a été mené. Ça ne peut pas nous faire déboucher sur un espace de libre expression démocratique, débat démocratique. Là, nous venons encore de rater une opportunité d'un débat démocratique.
Jean Choumbéla, cette procédure ne va-t-elle pas créer une jurisprudence et aussi un précédent fâcheux?
Mais c'est cela que nous craignons, c'est ça que nous craignons. Nous sommes dans un pays qui est en apprentissage de la démocratie. Il fallait déjà passer niveau. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui viennent des arcanes de ceux qui défendent la démocratie, pour le démontre. Là, ce sont des signaux inquiétants de désignation d'un consensus prononcé, la réalité qu'on n'a pas vécu, parce qu'on n'a pas vu le débat même parmi les candidats. On se réfère donc au Parlement désormais, il y a des nominations, on va accepter maintenant, il y a des nominations. Donc, cette crainte reste à notre niveau. Je crois qu'une bonne partie de l'opinion partage. Parce que nous devions déjà commencer l'apprentissage de la démocratie dans nos plateformes privées. Là, ce n'est pas un exercice de la démocratie. Ça devient de la désignation, l'alignement. On n'a pas eu le débat autour des candidats. S'ils sont au Parlement, parce que ceux qui sont partis, nous pouvons encore aller loin. Nous, la communauté ou la population, nous comprenons que cette question, la session, elle était voulue budgétaire. Elle est transformée en session politique. Aujourd'hui, il y a un débat de positionnement, de survie politique de certains camarades qui sont au Parlement ou qui sont au gouvernement, aujourd'hui qui sont au Parlement. Alors, les comptes de la population n'y est pas parce qu'il n'y a pas un débat. Donc, c'est un problème. Le pays était pris en otage par les 500 personnes au Parlement. Pas pour résoudre les problèmes de la population, mais pour résoudre les problèmes de positionnement. Est-ce que de cette manière-là, fallait-il pas le faire de façon démocratique pour que la communauté se sente concernée? Parce que ce débat, finalement, ça n'avait rien à faire avec toute la population. C'est un débat de 500 personnes plus le président de la République.
Merci, Jeff Moudimbi. Vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. C'est quoi aussi votre lecture par rapport à cette procédure dont nous parlons ce soir?
Merci beaucoup, M. Guimaté. Et avant d'y répondre, je voudrais d'abord faire une mise au point de manière à ce que nous puissions parler un même langage et M. Kongolo l'a dit autrement. Et au niveau du Parlement, nous avons deux composantes, à savoir la majorité incarnée par l'Union sacrée et l'opposition. Alors, la procédure de désignation de M. Aimé Mbodji concerne une composante du Parlement, à savoir l'Union sacrée. Donc, il est souhaitable que nous puissions plus parler de l'Union sacrée que du Parlement. Alors,
oui, maintenant, sans pour autant vous couper, il est souhaitable que nous puissions parler de l'Union sacrée et pas du Parlement, mais vous savez que la décision de l'Union sacrée aura une incidence sur le Parlement, parce que c'est ce candidat-là, n'est-ce pas, qui sera soumis, c'est cette candidature qui sera soumise, n'est-ce pas, à la plénière.
Vous avez tout à fait raison, parce que il n'est un secret pour personne que la présidence de la Chambre de l'Assemblée nationale va revenir à la majorité. Donc, on comprend très bien que ce poste revient d'office à l'Union sacrée. Est-ce que faudrait-il que l'Union sacrée aille en ordre dispersé, ou bien dès le départ, il faudrait qu'on se mette d'accord et que l'on parle un même langage? Donc ce qui est évident est que on peut aussi créer un consensus autour d'une candidature, et je pense que le consensus relève bel et bien du jeu démocratique. Lorsque je regarde ou j'analyse les différentes élections qui ont été organisées, au niveau d'abord de la présidence comme institution, quelle a été la grande faiblesse de l'opposition? C'est d'aller en ordre dispersé, sans consensus, sans pouvoir désigner un candidat unique qui devait affronter le président en exercice ou bien le président sortant. La conséquence, nous la connaissons, c'est que l'opposition a connu trop de problèmes pour accéder au pouvoir. Et même dans une de mes publications, j'ai dit qu'en 2018, cette alternance qu'il y a eu au niveau du pays ou de la présidence ne résulte pas d'une stratégie de l'opposition, mais d'une volonté ardente de la population de procéder à un changement. Alors, donc, c'est tout à fait normal que, au niveau de cette famille politique, si vous pouvez permettre l'expression, qu'on se mette d'accord pour désigner un candidat. Voilà. Mais là, je voudrais aussi rejoindre Jonas Tshombela, ce qu'il a dit. Alors que nous connaissons que le perchoir doit revenir à l'Union sacrée et que l'Union sacrée a déjà un candidat, l'unique candidat. C'est vrai, on ne parlera pas de l'élection, mais on parle de plébiscite, parce que l'élection suppose l'existence de plusieurs possibilités, de plusieurs choix, de plusieurs candidats, et les différents députés ou membres de cette chambre sont libres de choisir la personne qu'ils souhaitent. Voilà. Mais ici, on aura affaire à une seule candidature. Donc, on n'a pas d'autre choix à faire que de se prononcer sur le candidat déjà sélectionné au préalable. Et là, nous sommes dans le plébiscite. Oui. Donc, au niveau de la procédure, je ne vois aucun problème. Mais, moi, mon problème peut-être peut se situer au niveau de la qualité de ce choix. C'est ça ce qui peut peut-être poser problème, parce que nous avons, non, avant d'y arriver, Monsieur Aimé Mbodji était ministre. Alors, nous savons déjà que les différents députés se présentent avec deux suppléants. Alors, ce qui fait que lorsque un député est désigné à un autre poste, c'est le premier suppléant qui le remplace. Si le premier suppléant est aussi occupé quelque part, alors c'est le deuxième suppléant. Alors, Monsieur Mbodji était déjà ministre quelque part. Bon, si il pouvait se contenter de cette fonction-là,
En principe, c'est le deuxième suppléant qui pouvait se présenter. Mais le fait qu'il ait déjà démissionné au préalable, cela signifie que les carottes étaient déjà bien cuites. Et ce qui s'est fait ici n'est rien d'autre que déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. En effet, on a évité un peu des frustrations.
Oui,
parce que les frustrations sont telles que les influences tribales commencent tellement à peser sur la scène politique. Vous avez suivi certains membres de l'UTPS disaient que bon, ils pouvaient aussi être des chevaux partants pour occuper le perchoir. Bon, alors, on dirait qu'il y a un complot maintenant contre le camp de Bassoaïli, parce que c'est une réalité vivace dans la politique congolaise. Mais regardez celui qui va remplacer Vital Kamerhe, du parti de celui-là, et même origine territoriale ou tribale, ainsi de suite. Donc, c'est un choix bien motivé pour éviter les frustrations. Voilà. Et parce que quand il y a des frustrations, celles-ci peuvent avoir des conséquences très fâcheuses sur le bon fonctionnement des institutions. Alors, entre deux mots, on ne peut que choisir le moindre.
Voilà, vous dites que c'est pour gérer.
Mais quand je vois cette personne maintenant de monsieur.
Non, on n'est pas venu parler de l'individu, mais on parle plutôt de la procédure qui a abouti à sa désignation comme candidat, n'est-ce pas, au perchoir. Parce que vous avez dit que cela a été fait pour gérer les frustrations, on sait que il y avait une multitude de candidatures pour un seul poste. Et est-ce qu'on peut par là, n'est-ce pas, conclure qu'il y a guerre des palais?
S'il vous plaît, en politique, les ambitions sont permises. Et si on ne sait pas gérer les ambitions des uns et des autres, cela risque d'engendrer une sorte d'anarchie au sein d'une même famille. Alors, c'est ainsi que pour gérer mieux les intérêts des uns et des autres, il est préférable que dès le départ, bon, qu'on se mette d'accord, qu'on parle un même langage autour d'une personnalité, d'une candidature, et si réellement tout le monde est d'accord, bon, je pense que cela va contribuer même au bon fonctionnement du Parlement, bien entendu. Bon, nous sommes dans une démocratie, c'est la voix de la majorité qui prime avec l'encadrement de la minorité. Même si cette majorité est à côté, bon, finalement, bon, parce qu'elle est majoritaire, bon, elle impose sa loi.
Merci. Merci.
Et j'ai toujours dit ceci, par exemple, je m'excuse, je termine.
Allez-y.
Nous sommes dans un village où il y a un commerçant très réputé, du fait qu'il a des affaires qui prospèrent, il aide les gens de cette communauté, mais ce commerçant-là est illettré. Mais dans l'entretemps, un professeur vient se présenter comme candidat là-bas. Mais dès lors que toute la communauté l'a dit non, nous ne voulons pas du professeur nonobstant ses connaissances. Pour nous, c'est le commerçant là, même s'il est illettré. Bon, c'est celui-là qui passe.
Merci. Merci, on a compris. On va maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train, n'est-ce pas, de vouloir donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Joseph Kongolo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, Alimasi.
Alimasi Omba Jires, provenance de Kisangani, nous constatons une forme d'auto-reproduction de la classe dirigeante au sein du régime actuel. J'ai une question à vous poser. Pourquoi avoir choisi Aimé Boje comme candidat unique? Cela signifie-t-il qu'il n'y aura aucune compétition politique au sein de l'Assemblée nationale? L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, est membre de l'INC tout comme Aimé Boje, également ici de l'INC. Alors, le pouvoir est concentré entre le maire de l'INC et de l'IDPS?
Oui, Joseph Kongolo.
Bien, merci beaucoup pour la question, Monsieur Alimasi, Kisangani. Je voudrais dire d'abord que l'élection, elle est à mi-mandat. Il faut faire très attention. Ça veut dire, au début du mandat, on a établi des équilibres provinciaux, la géopolitique nationale, ce sont des choses qui sont présentes dans la politique nationale. Voyez-vous ? Alors, quand on arrive à mi-mandat, on ne peut pas bousculer ces équilibres. Je crois que c'est la logique qui a présidé pratiquement au choix de Puig. On ne pouvait pas bousculer les équilibres qui existaient déjà. Parce que vous avez l'espace qui vous, qui avait pratiquement l'institution parlement. Donc aujourd'hui, pour ne pas bousculer à la fois les équilibres, mais aussi ne pas bousculer les ambitions au niveau, n'est-ce pas, de grand qui vous, on a préféré répéter le plat. On a répété le plat pratiquement. Donc, quelqu'un de l'UNC, même si les gens de l'UNC disent qu'il n'était plus avec eux, ça importe très peu, et il est de l'UNC, on a gardé les équilibres. On a préféré garder les équilibres tels qu'on les avait conçus au début, n'est-ce pas, de ce mandat par la même Union sacrée. Voyez-vous ? Donc il fallait maintenir ces équilibres-là, et je crois que Beau, j'ai venu combler un vide, juste un vide, hein, qui a manqué parce que Kamer n'était plus avec eux. Ça, c'est vraiment une nécessité politique. Deuxièmement, les mécanismes politiques sont toujours occultes au sein des partis politiques. Parce que j'ai entendu M. Tshombela, non, il ne faut pas rêver. Dites-moi, comment le Premier ministre Yandivé, c'est qui encore ? Yandivé. Comment il est venu à la primature ?
Antoine Gizenga.
Ils se sont entendus bien avant les élections. Si moi je passe, toi tu seras Premier ministre. Ça peut se faire au même moment dans une famille politique. On peut aussi avoir ce genre d'arrangement avant les élections. Et après les élections, vous n'avez pas à réfléchir. Ils n'ont pas réfléchi quand Gizenga est venu au pouvoir. On n'a pas réfléchi parce que dès le départ déjà, on s'était déjà entendu avec lui. Donc les alliances en politique, très souvent les alliances en politique, ce sont toujours des mécanismes occultes. Ça, il faut le savoir. Et d'ailleurs, lui, M. Tshombela, comme il le dit là, il ne peut pas me donner 3, 4, 5 exemples là où le président du Parlement passe par les préliminaires, par les primaires, même dans les leviers civilisation. Ce sont des choses qui sont arrangées bien avant, pour éviter effectivement des conflits au moment de l'exercice du pouvoir.
Mais il n'a pas tort, Tshombela, lorsqu'il dit que c'est une situation qui soulève des questionnements, notamment sur la démocratie au sein du Parlement, et aussi sur l'indépendance, n'est-ce pas, des parlementaires.
La garantie de la démocratie au sein du Parlement, c'est à travers le règlement intérieur, la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on a choisi, on a mal choisi quelqu'un dans une famille politique que cela aura des implications sur le fonctionnement sur la démocratie au sein de l'institution. Non.
Encore qu'il faut vérifier si la procédure, n'est-ce pas, cette façon de faire est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Non, et ça n'a rien à voir avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Non, lorsque vous amenez, je suis d'accord avec vous.
Ok.
Lorsque vous amenez une personne, vous dites c'est l'unique candidat pour nous.
Oui.
Alors, c'est au sein du Parlement, n'est-ce pas, que les gens vont prendre la décision, vont choisir, en fait, vont plébisciter cette personne par là, parce que c'est une seule candidature.
Oui.
Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette façon de faire est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale ?
D'abord, il n'est pas interdit à un autre député qui n'est pas de l'Union sacrée, de la majorité parlementaire postulée, il n'est pas interdit. Donc, la démocratie que vous voulez là, un autre candidat peut se présenter. Bien sûr, tout en sachant que je vais échouer. Il peut se présenter. Donc, on n'a pas refusé, n'est-ce pas, la concurrence au niveau des élections, au niveau du Parlement. Ça veut dire, un autre candidat, un indépendant ou quelqu'un de l'opposition peut dire, non, moi je voudrais briguer ce poste. On ne va pas lui refuser parce qu'il est de l'opposition ou parce qu'il est indépendant. Donc, la démocratie au niveau de l'institution parlementaire n'est pas enfreinte. Mais par contre, les mécanismes de choix des candidats dans les groupements politiques, souvent ce sont des mécanismes occultes. Souvent, ce sont des mécanismes occultes, pas ce sont des faits privés. Alors là, maintenant, il faut comparer cela au règlement intérieur de l'Union sacrée. Là, ça devient notre débat. Mais là, il faut savoir qu'est-ce que l'Union sacrée a prévu dans le choix, par exemple, des représentants des institutions.
Merci, merci. On va écouter, l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Pour vous, Jonas Tshombela.
Maître Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. La désignation d'Aimé Boji comme candidat unique de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale entache profondément nos valeurs démocratiques, parce que nous voyons là une violation flagrante du principe fondamental de séparation des pouvoirs. Donc, espérons seulement que les votes des députés ne sera pas qu'une mascarade, une simple formalité pour entériner un choix déjà fait par l'exécutif. Le comble de la honte est que 500 députés censés représenter le peuple et assumer les responsabilités du perchoir de l'Assemblée nationale sont réduits à suivre les directives d'un membre de l'exécutif. Et c'est exactement cela que l'on observe une dictature. Parce que la séparation des pouvoirs disparaît, c'est le désir du guide, du chef, qui prime sur toute considération d'ordre démocratique.
Violence tombée là.
Je crois que le compatriote partage parfaitement mon point de vue d'inquiétude que j'avais d'un débat démocratique au sein de l'Union sacrée. Et il vient d'amplifier même en disant que ça va faire porter le coup sur le principe clé de la gouvernance publique, la séparation du pouvoir. Donc c'est le coup qui est déjà pris. Mais M. Kongolo, tout à l'heure, faisait allusion qu'on lui donne un exemple s'il y a quelque part. Mais M. Kamer est arrivé par d'abord les primaires au sein de l'Union sacrée. Vous avez oublié facilement ça. C'était par des primaires. Il s'en plaît même jusqu'à aujourd'hui. On l'a soumis à cet exercice. Mais c'est un bon exercice de la démocratie dans la majorité. Et c'est une bonne expérience à le faire. Mais à la fin, il pouvait déboucher sur un consensus qui n'est pas refusé en démocratie. Mais du coup, on fait surgir quelqu'un. Mais alors, le Parlement n'est pas quand même un Parlement d'Union sacrée, c'est le Parlement du peuple. Nous devons savoir tout ça. Donc, je pense que le compatriote pose la question et il s'inquiète comme moi-même. En fait, mon problème, ce n'est ni celui qui est désigné, c'est dans le procédure, parce que j'estime que nous sommes dans une phase pédagogique d'apprentissage de la démocratie. Nous ne pouvons pas encourager de mauvaises pratiques. On doit désigner des gens, les permettre et imposer. Non, je pense que l'ouverture de l'espace de la démocratie au sein de l'Union sacrée a été déjà expérimentée parce que M. Kamere est passé par les primaires. Donc, ce n'est pas une nouveauté ou bien une invention. Je ne suis pas contre le consensus qui se fait, mais je constate que ça s'est fait de façon peu démocratique.
Merci.
Parce que je vous dis que parmi les 12 ou 11 qui sont restés, il y a des frustrés. Il y a des frustrés et j'en connais quelque chose.
Merci beaucoup, Jeff Mundimbi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, sur Kivu.
C'est Fazili Moubolé depuis la ville de Bukavu. Nous saluons la désignation de l'honorable Aimé Bodji Sangara comme candidat de l'Union sacrée à la succession de Vital Kamerhe au sein de l'Assemblée nationale. Depuis un moment, on remarquait, non sans amertume, qu'au sein de l'Union sacrée, il y avait beaucoup d'agitation quant à cette candidature. Profitant de la même occasion, nous appelons l'honorable Bodji Sangara à se concentrer sur le retour effectif de la paix à l'est du pays, si la chance parvenait à sourire à sa faveur.
Professeur Jeff Mundimbi.
Okay, merci beaucoup. Je pense que le compatriote vient de me rejoindre. Comme vous le voyez là, on a joué de sorte à éviter la frustration. Parce que on peut même peut-être se permettre de dire que Vital Kamerhe est parti et Vital Kamerhe est resté. On a pensé pratiquement ici à conserver l'unité ou encore l'harmonie au sein d'une famille, et nous citons ici l'Union sacrée. Parce que si on pouvait peut-être se permettre de désigner un autre candidat par consensus, prenons que ce soit le candidat de l'UDPS. Et les autres composantes de cette Union sacrée allaient monter au créneau et ne pouvaient pas aussi se sentir tellement à l'aise. Un peu comme nous disons toujours que en politique, il y a des conventions. Et les conventions, là, se font, c'est aussi se défaire selon les intérêts. Mais si au départ, il a été convenu que ce poste revienne à l'UNC, bon, le fait que le président Vital Kamerhe soit parti et que l'on retourne encore quelqu'un de l'UNC, et quelqu'un aussi de l'espace swahilophone, ça atténue un peu les frustrations. Et comme je l'ai dit là-bas, que les frustrations d'une manière générale sont de nature à engendrer encore des crises. Et au regard de la situation politique que traverse le pays, il y a lieu d'éviter toutes ces différentes crises-là. Donc, au niveau de la procédure, je ne vois aucun problème.
Oui.
Et puis, le fait déjà de présenter au départ un candidat de l'Union sacrée, c'est une bonne manière pour cette plateforme de faire passer sa vision, d'avoir vraiment la chance d'amener encore son programme jusqu'à terme.
Professeur.
Mais il n'est pas interdit qu'il y ait d'autres candidats puissent aussi se présenter. Mais ici, vous voyez, comme nous avons déjà un candidat de la majorité, celui-ci a toutes les chances de gagner l'élection, même si on peut, à ce niveau-là, parler carrément des plébiscites au cas où il y a un seul candidat.
Voilà, professeur, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, on va commencer la conclusion. Comment vous entrevoyez, Jeff Moudim, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, comment vous entrevoyez la suite de ces processus, cette fois-là, au sein de l'hémicycle, hein, lorsqu'il va s'agir, n'est-ce pas, d'élire M. Boji pour remplacer Vital Kamerhe. C'est votre conclusion.
Bon, moi j'estime que s'il résulte réellement d'un consensus, il n'y a pas à réfléchir plusieurs fois, c'est ce candidat-là qui sera bel et bien désigné ou élu. Mais quand il sera élu, ce qui est souhaitable, c'est que c'est de travailler dans le sens de l'intérêt national plutôt que de travailler dans le sens de la préservation des intérêts de l'Union sacrée.
Merci.
Parce que le Parlement est une institution nationale, alors il faudrait que l'on ait vraiment une vision de la préservation de l'intérêt national.
Merci Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Vous allez aussi conclure. Hein. Si cette façon de procéder a créé des mécontentements, comme vous l'avez dit, mais ça peut être quoi son mérite?
Bon, le mérite est que ils ont, dans un temps record, mais après avoir perdu tout témoin pour une session voulue budgétaire, pour trouver cette question, la réponse pour la personne qui va être au perchoir, bon, la réponse pour moi, elle reste l'éducation de la population aux valeurs de la démocratie au sein des partis politiques qui gèrent réellement la République. Cette occasion nous a été arrachée, on n'a pas eu cette possibilité d'apprécier les uns les autres. Nous allons aujourd'hui accepter l'alignement, parce qu'il faut que le pays avance. Mais alors, il faut qu'ils en tirent les leçons, parce qu'ils ont aussi la mission de l'éducation de la conscience nationale, à travers les actes et gestes qu'ils posent au sein de leur famille politique, tout en les donnant la chance, parce que la personne de Bouge qui ne pose pas de problème, c'est la procédure pour moi qui nous a loupé une opportunité.
Merci.
De vivre encore un débat démocratique.
Merci.
Plein de chance à lui.
Merci Joseph Kongolo, analyste politique et coordonnateur du bureau d'études et d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Il a été dit ici que c'était aussi une façon de gérer les ambitions, mais qui dit gérer les ambitions dit aussi faire des concessions, proposer, n'est-ce pas, des contreparties. Quand il faudra maintenant partager les gâteaux, est-ce qu'il ne va pas se poser des problèmes, Joseph Kongolo? Ça sera votre conclusion.
D'abord, un élément très important, c'est que la démocratie n'annule pas l'irrationalité de la politique. J'ai comme l'impression que les gens donnent une logique qui n'est pas celle politique. Donc, l'irrationalité de la politique restera, même dans une démocratie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les frustrations, de la même manière qu'on les a gérées au niveau des candidatures à la présidence de l'Assemblée nationale, on va les gérer aussi pour d'autres partages. Je crois que ça, c'est ça aussi, grandir au sein d'une famille politique. Mais ce que je peux demander à l'honorable Boji, c'est d'éviter les erreurs sur lesquelles a été évincé le président Kamerhe, au niveau administratif, au niveau politique, et même au niveau de la loyauté auprès de cette plateforme politique qui est porteuse du pouvoir. Donc, il faut qu'il évite ces erreurs de manière à travailler jusqu'à la fin de la législature.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Joseph Kongolo, Jonas Tchombela et Jeff Moudimbi. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Enoch Katumbi qui l'a réalisé, à Pierre Biassino et Diedoné Nyangasa qui était à la technique. Jonathan Fouanani, Glody Tutonda et Fideli Tchela ont assuré les lives de ces magazines à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.